18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Et salut à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio U au 101.1 pour votre quotidienne. Ce soir, on accueillera les membres de l'association ConAction, mais avant, on vous propose d'écouter dans cette quotidienne deux reportages d'une série sur la transition énergétique réalisée par Maxime Bertaille, service civique à Radio U l'année dernière.
Permettre aux citoyens de porter des projets de production d'énergie locale et renouvelable, c'est l'objectif de l'association Brest Énergie Citoyenne. Pour ses premiers projets, celle-ci privilégie l'installation de panneaux photovoltaïques sur des toits de bâtiments en milieu urbain.
Alors Brest Énergie Citoyenne, c'est une association qui existe depuis 2017 et qui est née de la rencontre entre des gens qui, dans leur lieu de vie, se sont posé des questions. Comment on peut intégrer des comportements qui permettent d'avancer dans le sens de la transition écologique avec des choses du quotidien, avec des choses simples comme par exemple essayer d'éviter de surconsommer, essayer de trier ses déchets, essayer de maîtriser un petit peu ses consommations.
Jean-Paul Guarzin, bénévole et directeur du CA, m'accueille à l'école d'arts martiaux Wushu, dont il est propriétaire avec sa femme. C'est sur le toit du bâtiment que l'association a réalisé sa première installation photovoltaïque.
Il y a eu une première rencontre et un premier travail construit dans le cadre de l'agenda 21 des familles du quartier de Saint-Marc. Donc plusieurs familles se sont regroupées pour réfléchir à des problématiques de ce type. Et la problématique de l'énergie est arrivée. On essaye de voir qu'est-ce qu'on consomme dans son quotidien et qu'est-ce qu'on peut éviter de consommer. Ça, c'est vraiment le premier réflexe de bon sens, mais qui n'est pas évident. Donc étudier, le faire collectivement, je trouve que ça a beaucoup de sens. Le groupe a par la suite continué à réfléchir en se demandant si on essaye de maîtriser nos consommations d'électricité. Est-ce qu'on peut aussi participer à la production d'une énergie qui serait locale et renouvelable? Et très vite est venue l'idée que ça valait le coup et qu'il fallait se structurer. Donc la première étape de la structuration, ça a été de créer l'association Brest Énergie Citoyenne.
Bon alors, c'est un terrain miné ici, hein, puisque c'est là qu'on stocke tout. Donc tu fais gaffe à ta tête.
Ok.
On est dangereusement armé avec des sabres vachement solides.
C'est pour les arts martiaux ?
Ouais, c'est ça.
Pour beaucoup, c'était de vouloir se responsabiliser, de prendre sa part à la production locale d'énergie renouvelable, mais en faisant le constat aussi que, habitant ici en Bretagne, et en particulier à la pointe de Bretagne, on est très dépendant d'importation d'énergie. On produit une toute petite part de l'énergie qu'on consomme, et en particulier sur l'électricité. Donc on est plusieurs à avoir des souvenirs d'un combat contre l'électricité nucléaire, enfin contre l'implantation de centrales nucléaires plutôt, à la pointe bretonne, qui a été courageux, qui a été mené et remporté. Mais d'un autre côté, on se dit aussi, est-ce qu'on a refusé l'implantation de centrales nucléaires ici, à juste titre, mais on accepte d'importer de l'électricité qui est produite essentiellement par les centrales nucléaires, mais qui viennent d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'on laisse le problème à d'autres habitants, d'autres régions en fait. Est-ce que localement, on peut, nous aussi, prendre notre part à cette production et ne pas se dire qu'on dépend toujours d'autres régions ou d'autres lieux? Alors si on parle de production d'énergie renouvelable, étant à Brest et en particulier dans un quartier, on élimine tout de suite plusieurs sources d'énergie renouvelable, comme par exemple l'hydroélectricité, où il n'y a pas de potentiel, il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de grand dénivelé avec des grands cours d'eau, donc ce n'est pas possible. Le grand éolien, on sait que l'éolien, pour que ça marche, pour que ça soit stable, il faut aller chercher les vents en hauteur, donc il faut des mâts qui monte à 50, 60, 80 mètres. Et c'est absolument impossible sur le territoire. Enfin, réglementairement, c'est pas possible sur le territoire de Brest Métropole. La solution la plus faisable, la plus facile et la plus immédiate aussi, parce que c'est important, quand on crée quelque chose, de donner à voir du concret, c'est motivant. Et donc, ça a été le photovoltaïque. Et on s'est rendu compte que produire de l'énergie renouvelable, c'était une affaire d'investissement. Il fallait une structure qui soit capable de porter économiquement des projets et d'exploiter derrière, puisque dans le cas de la revente d'électricité, on s'engage en fait sur des contrats de 20 ans à exploiter une centrale photovoltaïque et à revendre l'électricité. L'association n'était pas la structure adaptée, donc on a cherché une autre structure et on a créé une société coopérative, dite donc Société Coopérative d'Intérêt Collectif, une SIC. Voilà. Et donc c'est là la naissance de Énergie Coopérative du Ponant en 2019.
Donc toi, tu peux rester là tout simplement, hein, tu verras les choses.
Ça marche.
Parce qu'après ici, on se retrouve sur des... Bon, du bac acier, c'est solide, mais...
Le capital social de la coopérative vient des sociétaires qui, effectivement, ont souscrit des parts sociales de la coopérative. Actuellement, nous sommes 112 sociétaires. Sur les 112, beaucoup ont pris une part sociale, ce qui est à 100 euros, donc c'est le ticket d'entrée minimum, on va dire. La souscription moyenne est de 400 à 500 euros, parce qu'en fait, il y a des gros souscripteurs et puis beaucoup à 100 euros, donc en moyenne, ça fait 400-500 euros. Mais on n'a jamais présenté ça comme un investissement financier pour les souscripteurs. C'est-à-dire que l'argent, le capital social, donc l'argent déposé par les souscripteurs, sert à financer des projets, sert au fonctionnement de la coopérative qui a des frais. Les sociétaires qui ont pris des parts sociales peuvent demander, donc dans les statuts, à récupérer leur argent, mais il n'est pas prévu de rémunérer cet argent, donc avec 5% par exemple d'intérêt par an, comme on peut faire dans d'autres projets, parce que c'est pas viable économiquement. Et ce que nous souhaitons, c'est si la coopérative dégage des bénéfices, c'est que ces bénéfices soient réinvestis dans d'autres projets. On a fait une première installation, on va dire, plutôt moyenne et légère. Enfin, quand je dis moyenne, c'est 20 000 euros d'investissement. Donc, c'est ici, là où se trouve, c'est l'école Wushu-Brest, dont je suis propriétaire avec ma femme, qui exploite en tant que directrice de l'école de Wushu. Voilà, la toiture, les conditions étaient faciles, puisque c'est une toiture en bac acier qui a été renouvelée récemment. Donc, on sait parce que quand on se projette dans une installation photovoltaïque, on estime que les panneaux solaires vont produire pendant minimum 30 ans, mais peut-être 35, 40 ans. Donc il faut que la toiture, que la charpente puisse accueillir cette installation pendant autant d'années. On ne fait pas toute une installation comme ça pour 5 ans. Donc ça a été la première réalisation qui a été réalisée il y a 2 ans maintenant, mise en service à l'automne 2020.
Et là, c'est un truc à se gueule aussi. Enfin... Il n'y a rien de dangereux, mais... Ouais, c'est ça, il n'y a que 8 de ce côté, en fait. Donc c'est 17 et 8, 25. Okay. 25 et un panneau, ça fait 1 mètre par 1 mètre 70. Et donc on doit être à 47 mètres carrés, un truc comme ça. Et donc là, c'est la partie électronique, quoi. Le coffret bleu, c'est ce qu'on appelle l'onduleur, qui va transformer l'électricité... le courant continu en courant alternatif qui lui sera injecté sur le réseau.
Pour les bâtiments dont la consommation d'électricité est basse ou irrégulière, en effet, le choix de l'autoconsommation de l'énergie produite est moins rentable que de la vendre au réseau puis de racheter ce qui est nécessaire. Le circuit physique, lui, reste local. Ce sont bien les électrons produits par les panneaux qui viennent alimenter la bouilloire pour le thé ou les maisons du voisinage.
Fais gaffe à la tête, hein, ça.
Donc ici, on est sur une installation, la première, hein, l'école de Wushu, qui est c'est inférieur à 9 kg, c'est dans les 8 kW crête. Voilà. Et la deuxième, on change complètement d'échelle parce que c'est 10 fois plus, hein, c'est 88 kW crête qui sont installés déjà maintenant sur une toiture. Alors là, c'est une toiture complètement différente, c'est une toiture terrasse plate. Et c'est aussi un propriétaire complètement différent, puisque c'est la ville de Brest. La ville de Brest avec qui on a travaillé dès la création de l'association Brest Énergie Citoyenne et Brest Métropole pour voir s'il était possible que cette collectivité, enfin là c'est le patrimoine de la ville de Brest en l'occurrence, nous mette à disposition des toitures favorables. Donc on a travaillé en très bonne intelligence avec... Brest Métropole, qui pour nous est un interlocuteur depuis le début et vraiment facilitateur, porteur, qui est d'ailleurs sociétaire de la coopérative, puisque Brest Métropole est entré dans le capital de la coopérative en prenant 40 parts, donc 4 000 euros, et la ville de Brest, 80 parts, 8 000 euros. Donc c'est vraiment des gestes forts et de soutien qui sont très importants. Et l'autre soutien, donc, c'est la mise à disposition de toitures. En l'occurrence, celle qu'on est en train de réaliser, c'est l'école Lucie et Raymond Aubrac, dans le quartier de, enfin, au bord de l'avenue Le Gorgeux, donc vers Bellevue, Quéréderne. Et cette installation est pratiquement finalisée, là. Il ne reste plus que la mise en service, donc vraiment les derniers paramétrages, et on pourra l'inaugurer au mois de mai.
La société coopérative va pouvoir financer des projets hors de Brest Métropole, avec la nouvelle association Iroise Énergie Citoyenne, par exemple, sur Plumoguer. L'association, elle, s'occupe de définir les projets localement sur Brest.
On a eu plusieurs échanges avec des structures qui souhaiteraient travailler en partenariat en mettant à disposition leur toiture. Donc on peut citer par exemple le foyer laïque de Saint-Marc. Mais là, il faut attendre une rénovation du bâtiment. Ça ne sert à rien de faire des travaux avant si on doit démonter pour rénover le bâtiment. La ferme à Raymonde, qui est gérée par l'association Vers le Jardin. Et là encore, il y a une toiture qui a été faite avec une charpente solide. On a d'ailleurs organisé notre... la ferme à Raymonde nous a accueillis pour organiser notre dernière assemblée générale au mois d'août 2021. Se rapprocher de structures comme ça, ça a vraiment beaucoup de sens pour nous.
Long time. ghost in the room gets so heavy when I think of you. Sweet nothing's from a ghost in the room gets so heavy when I think of you. Sweet nothing's from a ghost in the room gets so heavy when I think of you.
C'était Future Love de Daughter et tout de suite on écoute le deuxième reportage de notre série sur la transition énergétique.
EcoCO2 est une entreprise qui se donne pour but d'accélérer la transition écologique par le changement du comportement des citoyens et des organisations. Celle-ci déploie notamment des programmes d'accompagnement, comme Wati, qui vise à sensibiliser les enfants à la réduction de la consommation d'énergie au moyen d'interventions en milieu scolaire. L'atelier d'aujourd'hui s'adresse aux élèves de la classe de CE2-CM1 de l'école Paul Ducasse à Brest.
On avait parlé des énergies renouvelables.
Moi, c'est Julie Bonenfant, donc je suis animatrice en maîtrise de l'énergie à Énergence et du coup j'interviens dans le cadre du programme Moitié à l'école dans les classes de Brest Métropole. Donc c'est un programme qui est déployé sur Brest Métropole par Énergence et donc on intervient 3 fois dans chaque classe au cours de l'année pour sensibiliser les élèves aux économies d'eau et d'énergie au quotidien.
Et donc déjà, si on commence, l'eau... Pourquoi on dit que c'est une ressource qui est vitale?
Parce que notre corps il a besoin d'eau.
Ouais, notre corps il a besoin d'eau pour vivre. Et donc l'eau, on va en utiliser beaucoup tous les jours.
Du coup, c'est étalé sur l'année. Donc, au premier trimestre, on fait un atelier sur la sensibilisation aux énergies en général. Donc, comprendre ce que c'est l'énergie, comment on l'utilise, les sources d'énergie, etc. Et initier une première réflexion sur les petits gestes qu'on peut faire. La deuxième séance, elle a eu lieu à la rentrée de janvier. Et du coup, on a abordé le chauffage. Qu'est-ce qui nous permet d'avoir du chauffage à la maison et comment on peut faire pour réduire nos consommations de chauffage avec des petits gestes au quotidien.
Et est-ce que vous savez d'où est-ce qu'elle vient, cette eau du robinet?
Des égouts.
Est-ce qu'elle va venir des égouts?
Non. De la mer?
Ouais, toi tu dirais de la mer. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des idées d'où elle vient, notre robinet?
Des puits.
Ouais, toi tu dirais qu'elle vient des puits, donc ça veut dire qu'elle vient en profondeur du sol?
Aujourd'hui c'était sur l'eau et les usages qu'on en fait pour essayer d'économiser au mieux l'eau et puis l'énergie qu'on utilise pour chauffer cette eau.
On va faire les petits groupes après. Je vais d'abord vous expliquer. Vous allez avoir une enveloppe et dans cette enveloppe, vous allez avoir plein d'images. L'usage de l'eau.
Ça c'est brossage des dents, ça c'est grande chasse d'eau 6 litres, ça c'est lavage de légumes et fruits 3 litres.
Lavage de la vaisselle, à la main,
les toilettes, le brossage de dents, le café, se laver les mains.
Vous allez essayer de compter la quantité d'eau qui va être utilisée dans une journée pour une personne avec toutes les images qui vont avoir été utilisées.
260
litres au début, je pense maximum 200 litres.
C'est beaucoup. Il faudrait stocker à la maison 320 bouteilles d'eau comme ça pour pouvoir faire tous les usages que vous avez sur la table là. Pour une journée et pour une personne.
Mais 2 minutes, ça peut pas.
Bah, ce qui fait le plus gaspiller d'eau,
c'est le pain. La machine à laver,
la vaisselle, il économise.
On essaye de faire des choses assez ludiques avec des expériences de la manipulation pour essayer de marquer les enfants qui retiennent des choses, qui se souviennent des ateliers Wati. Et donc l'objectif c'était de leur faire comprendre d'abord pourquoi on dit qu'il faut essayer de moins gaspiller l'eau et l'énergie pour pouvoir vraiment être acteur et agir au quotidien et avoir l'envie de transmettre ces petits gestes à nos proches, aux proches des enfants et dans leur famille pour que ensuite ce soit un peu les ambassadeurs qui transmettent ces bons gestes.
Et donc qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire cette quantité d'eau? Parce que là je me suis dit des gestes qui utilisent beaucoup d'eau. Par exemple on peut prendre des douches et si on regarde une douche par rapport à un bain, c'est combien d'eau une douche?
50 litres.
C'est que 50 litres. Mais à quelles conditions? Est-ce qu'une douche, faut qu'elle dure 15 minutes ou 20 minutes? Ouais, c'est entre 5 et 10 minutes.
Quand j'interviens dans les classes, j'ai espoir de me dire que c'est des petits gestes simples qui, en plus, permettent de faire des économies d'argent, en plus des économies d'énergie. Donc, en fait, c'est gagnant-gagnant, enfin, pour tout le monde.
Le doux renouvelable, c'est tu ne l'auras pas toujours.
Et le rouge, tu l'auras toujours.
Les économies. Des économies logiques.
Des économisations.
Quand par exemple tu te brosses les dents,
en attendant que tu te brosses les dents, il faut faire un vélo.
quand tu fais la vaisselle, il faut faire attention à l'eau. Par exemple, quand tu laves les assiettes avec l'éponge, je ferme l'eau.
C'est pour ça que j'ai inventé quelque chose. Bon, c'est pas partout dans le monde, mais j'ai appris ça le douche-bain. Donc en gros, tu fermes juste et l'eau que tu as gaspillée qui est sur toi, bah, elle reste dans le bain.
Et donc après, du coup, on va aussi essayer de voir sur l'eau, bah, en fait, qu'il n'y a pas juste la consommation directe de l'eau qu'on en fait à la maison, mais tous les objets qu'on achète vont forcément utiliser de l'eau pour être fabriqués, etc. Donc on va essayer de se rendre compte, bah, pour un t-shirt, la quantité d'eau quoi, qui a été utilisée, et comprendre aussi, bah, qu'à cette échelle-là, on peut aussi agir. Et puis les enfants repartiront tous ce soir avec un petit kit économe où à l'intérieur ils trouveront deux mousseurs et un débitmètre pour essayer de voir à quoi servent les mousseurs et faire une petite expérience pour comprendre comment ça permet d'économiser de l'eau. Je pense qu'ils sont sensibilisés depuis tout petit et que c'est dans les programmes scolaires maintenant, donc ils sont vraiment très réceptifs au programme et du coup ils ont l'envie d'agir et de faire agir les personnes autour d'eux aussi.
Une sensibilisation qui semble porter ses fruits. Les élèves de CM2 qui ont participé au programme Moiti l'an passé semblent avertis des enjeux du climat et de l'énergie et des éco-gestes.
On a parlé de l'économie de l'électricité, de l'eau, parce que bah, peut-être qu'un jour on n'aura plus d'eau parce qu'on utilise beaucoup trop de choses et parce qu'il faudrait utiliser par exemple le vent comme électricité pour faire de l'électricité, des panneaux solaires, parce que sinon après on n'aura plus de pétrole, on n'aura plus rien et les voitures, ils gaspillent beaucoup de gaz et de pétrole. Au lieu de prendre des voitures, on pourrait prendre des vélos à la place. Attention à l'eau, par exemple, moi quand je me brosse les dents, je mouille juste ma brosse à dents et après j'éteins l'eau, par exemple. Pour la douche, bah, je me mouille juste et après j'éteins l'eau pour me savonner.
Bah moi aussi, quand on éteint bien les lumières, ne pas trop gaspiller l'électricité.
Des fois, il y a des sortes de chronomètres en fait, qui servent à faire la douche pendant 5 minutes pour pas en fait, que tu gaspilles trop d'eau.
Comme le notait Julie, les enfants semblent être porteurs d'un dialogue au sein de leur entourage.
J'avais demandé à maman de changer l'embout pour les robinets. Maintenant, on économise beaucoup plus l'eau.
Moi, souvent, je lui dis de plus souvent utiliser des moyens comme à pied et tout ça. Mais après, c'est vrai que c'est aussi difficile. On ne peut pas souvent trop aller à pied.
Ça va être les acteurs de demain, je pense. Mais du coup, ça va être grâce à eux qu'on arrivera à sensibiliser les adultes et à transformer nos gestes au quotidien.
C'était Land of Fire de The Red Goes Black et tout de suite nous sommes avec Juliette et Eve de l'association Conaction qui organise ce vendredi une soirée au Cabaret Vauban de minuit à 5h du matin pour fêter les 15 ans de l'association. Salut les filles.
Salut.
Salut.
Alors avant de parler de cette soirée, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus peut-être sur la naissance de Conaction vu que voilà, ça fait 15 ans aujourd'hui.
Eh bien écoute, ça correspond à notre début d'amitié avec Juliette à peu près, parce qu'on s'est rencontrés il y a une quinzaine d'années, avant qu'elle fasse son petit tour du monde. Voilà, on a bien matché toutes les deux, puisqu'on était dans la musique à notre façon toutes les deux. Moi je faisais une formation de chargée de prod, donc j'avais envie d'organiser des choses, mais j'avais un peu trouille toute seule de me lancer. J'ai rencontré Juliette qui était dans le milieu punk, bassiste dans HHM. Et voilà, on s'est automotivés toutes les deux, malgré un peu nos trouilles et nos doutes. Et voilà, on a fait plein de choses.
Et c'était quoi le but à ce moment-là? Vous vous disiez, qu'est-ce qu'on va faire avec cette association?
Eh bien, un petit peu pour nous démarquer, en fait, on a eu envie de se positionner tout de suite sur la place des femmes un peu dans la musique, hein, parce que le constat, c'est qu'il y a toujours quand même moins de femmes que d'hommes, enfin surtout au moment où nous, on a commencé.
Oui, maintenant, ça a bien progressé, c'est ça qui est chouette.
Ça a bien progressé, surtout dans la musique électronique, je trouve. Dans les musiques rock, là, c'est encore à la traîne un peu, je trouve, hein. Et donc voilà, on met en avant les femmes, mais ça ne nous a pas empêché de faire jouer aussi des gars. Enfin voilà, on n'est pas non plus bloqué sur ces questions-là, mais voilà, c'est un peu l'objectif.
Et alors, donc, vous proposez en fait un peu des concerts, des soirées, vous construisez des programmations musicales, mais vous ne faites pas partie de boîtes de production ou de salles de spectacle, vous êtes une association. Donc comment ça se passe pour programmer des artistes, réussir à les programmer dans des salles quand on est une association en fait?
Eh ben, il y a quelques salles à Brest avec lesquelles on travaille depuis le début. Hein. Il y a eu l'espace Léo Ferré, hein. On a fait pas mal de choses là-bas.
Léo Ferré, la Carène, et puis comme les autres, en fait, on contacte les tourneurs s'il y en a, ou les assos, ou les artistes en direct, tout simplement, s'ils n'ont pas de tourneur. Hein. C'est assez simple.
Et c'est vrai que vous êtes assez soutenu, enfin vous avez été assez soutenu en tout cas par des lieux culturels importants, je pense, comme la Carène ou le Vauban. Comment ça s'est fait pour un peu réussir à s'imposer dans le paysage culturel brestois à ce moment-là? Ou au fil des années?
L'avantage de Brest, c'est que c'est un petit village, donc tout le monde se connaît un petit peu. Nous, on côtoyait déjà quand même pas mal les salles de concert aussi, donc forcément, on apprend à se connaître, enfin un petit peu. Moi, j'avais fait mon stage chez Astropolis, donc forcément, après, tu développes le réseau. Et puis, oui, quand tu côtoies beaucoup, tu vas beaucoup au Vauban, c'est un peu justement un endroit stratégique pour rencontrer du monde. Et puis après, ça va... Oui, Brest, c'est un petit village, donc ça va assez vite, finalement.
Et alors, peut-être pour parler, par exemple, de type d'événements que vous avez pu organiser, il y a eu, il me semble, les soirées Full Speed Women. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu?
Alors, les Full Speed Women, c'est un partenariat qu'on a avec Nightbirds, parce que eux, c'est vrai qu'ils font des soirées thématiques. Il y a les soirées live, il y a les soirées... donc c'est les comètes, je crois.
Des événements autour de la musique ambiante.
Et du coup, voilà, ils avaient aussi envie de se positionner aussi sur des thématiques féminines. Et du coup, ils nous ont proposé qu'on s'associe sur ces soirées-là. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ils ont mis en avant notamment le collectif queer Drag Glory Hall avec ces soirées-là. Et puis, je crois qu'on est à 5 soirées qu'on a fait ensemble.
Et pour vous, comment ça se passe? Est-ce que vous avez eu un peu ce rôle de dénicher parfois des talents locaux ou pas forcément?
Pas trop avec eux, mais par contre, nous, ouais.
Avec l'association, je veux dire.
Plutôt nationale, puisqu'on avait toute la scène punk qu'on a fait jouer était quand même sur le territoire français. On a fait pas mal de gens, quand même, un peu d'apôt partout.
Après, en techno, on a fait jouer pas mal aussi de filles qui venaient de la Frie, en fait. Hein.
Oui.
Et puis, il y a Catel qui vient jouer là justement vendredi, qui vient de Rennes. Hein, donc là, c'est local plus. Et puis, on a fait aussi, y avait Betty, il y avait...
un peu des sons, des sound systems, un peu, que ce soit Epsilon ou tous ces gens-là, effectivement, qui a un peu disparu d'ailleurs, mais...
Soxy, Epsilon, ouais, tout à fait. Et puis, il y en a eu d'autres. Hein. Hello, aussi, de Lulle. Il y a eu aussi...
La vieillesse.
Ouais, c'est ça. Même, hein.
Non, mais alors, on parle beaucoup d'organisations qui se font donc dans le domaine musical, de concerts. Mais est-ce que vous réalisez d'autres types d'actions avec votre association ou ça se concentre uniquement dans la programmation?
Ouais, c'était purement musical. On n'a pas fait trop de... On a eu un partenariat avec les copines de Quimper, Gast, qui était sur un festival qui parlait des sexualités, des choses comme ça. Donc, c'était plus politique. Mais notre leitmotiv, c'était plutôt autour de la musique.
On a eu Chat aussi qui est venu faire de la BD avec Melvin. Ils sont venus faire une fresque même, ensemble.
Ça s'est référé dans le cadre du festival de BD.
Un concert. Oui. On avait fait aussi la Travesty Monsters avec...
Toulousain, oui.
Voilà, il y avait eu aussi la Sweat Lodge. Mais c'est vrai que ça reste autour de la musique. Il y a un petit peu d'art de rue ou de... Voilà, d'autres...
Oui, il y avait les benzodiazépines qui faisaient du théâtre assez trash. On a bien mélangé un peu les genres.
Dans le domaine artistique,
ouais,
mais
de toute façon, ouais.
Et donc, tu le disais un petit peu, mais il y avait cette volonté avec cette association de mettre en avant les femmes artistes. C'est vraiment quelque chose du coup que vous remarquez aujourd'hui. Il y a de plus en plus de femmes qui se produisent, qui font de la musique et peut-être dans des genres un peu où on les attendait pas à l'époque, où on les voyait pas du moins.
Bah dans la musique électro, c'est flagrant, oui, clairement. Ça, vraiment. Puis je pense qu'il y a eu vraiment une prise de conscience au niveau des programmateurs. De toute façon, je pense que ça a été bien rabâché, qu'il y avait un gros déséquilibre. Et là, je pense que beaucoup de gens jouent le jeu aujourd'hui. De toute façon, il le faut. Enfin, voilà. Et du coup, ça a aussi motivé les filles, je pense, à se mettre plus en avant et à gagner du terrain.
Et vous pensez que votre asso, elle a eu un rôle en fait dans ce...
Bah écoute, on
a envie de le croire. Ouais.
C'est le petit fanzine là de Nantes qui nous a qualifié de précurseuses, donc je ne te cache pas ma petite fierté.
Avec mon groupe de punk rock, c'est pareil, on était le seul groupe de filles à l'époque. Là maintenant, il y a peut-être un petit peu d'autres groupes, mais c'est pareil, c'est pas non plus.
Il y a encore du travail à faire.
Ouais, il y a encore.
Ça marche pas. Très underground encore, justement, tout ce qui est dans le milieu punk, de toute façon. Mais après, il y en a quand même.
Oui, mais il y en a. Mais même dans le milieu punk, en fait, hein, qui se veut pourtant humaniste, antisexiste, il y a encore du boulot.
Puis le punk, il y a un peu ce truc peut-être aussi de punk glam, du coup, qui reste un peu dans des... Quelque chose qui serait peut-être féminin, mais est-ce que... avoir un punk qui serait pas genré ou quoi que ce soit, est-ce que c'est compliqué, ça?
Et non, c'est pas compliqué du tout, t'as raison. Ça, c'est un sujet intéressant aussi. Ouais.
Bon, et puis donc cette année, c'est déjà les 15 ans de Connexion. Et à l'occasion, vous organisez une soirée au Cabaret Vauban, donc de minuit à 5h, avec une programmation qui est plutôt techno et 100% féminine. Comment se sont faits les choix des artistes de cette soirée?
Alors, moi, je suis allée à une soirée à l'Élaboratoire, qui est un lieu autogéré à Rennes. Je suis allée récemment là-bas. Il y avait une programmation exclusivement féminine. Et c'était que des tueries, en fait. Et j'ai flashé sur Cécile Facom, qui vient de l'autre bout de la France. Là, j'ai vraiment trouvé ça top. Et donc, Catel, qui va jouer aussi, c'est l'organisatrice de cet événement à l'Élaboratoire. Donc, la programmation s'est faite comme ça. Et puis on a eu l'opportunité d'avoir cette date-là au Vauban, sauter sur l'occasion.
On ne pouvait pas passer à côté, ça aurait été dommage.
Donc c'est des coups de cœur un petit peu.
Oui, Catel, on la connaît depuis longtemps. Catel, on l'a déjà fait jouer justement lors d'une Sweet Lodge et avec son projet Las Gatas Electronicas de mémoire. Mantine aussi. Donc, c'est une histoire d'amitié, même si on se voit très ponctuellement. Mais elle avait fait jouer Juliette à Rennes également, en première partie de Rebottini. Donc c'est toujours un plaisir de se voir.
Et Juliette, justement, toi, tu vas aussi te produire sur scène vendredi soir. Comment tu définirais, toi, ton style musical et qu'est-ce que tu vas nous proposer?
Alors, moi, je définis mon style comme techno, tout simplement. Après, comme j'ai une culture rock à la base, c'est vrai que j'ai vraiment des morceaux très, très différents, en fait, que je vais associer et qui sont très différents et qui sont même d'époques différentes. Et donc, du coup, je pense que ça fait des sets qui ont pas mal de relief. Moi, ça me fait penser à des voyages, mais ça reste très dansant. Hein. C'est vraiment ce que je privilégie. J'aime beaucoup quand il y a des basses. J'aime aussi quand il y a des mélodies un peu poétiques à la NTO, des choses comme ça. Et puis, des gros sons qui tâchent aussi à la Boris Brejcha ou la Rebottini, des choses comme ça, j'adore. Quoi. Jennifer Cardini aussi, tous ces genres de sons, j'aime beaucoup.
Et on peut s'attendre à quelque chose d'assez diversifié entre du coup les trois DJs qu'il va y avoir ce soir.
Tout à fait, parce que moi, Cécile, ce que j'ai entendu d'elle à laboratoire, c'était vraiment techno aussi, vraiment dans la veine de ce que je fais. Enfin, c'est le sentiment que j'avais. Et là, elle a envie, elle m'a demandé si elle pouvait taper un peu plus fort cette fois-ci.
C'est et Charles qui va être content.
C'est Charles qui va être content. Et ça va être donc a priori plus acide techno. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Et Katel, bah, c'est vrai qu'elle peut jouer tout, cette fille. Elle
c'est techno, drum and bass, ouais.
Donc, ça va
ouais
être, c'est bien. Voilà, donc du coup, c'est bien, ça va être super varié la soirée, ça va être top. Et moi, j'aime bien justement quand c'est pas monocorde dans les styles musicaux. Voilà. Donc, ça va être 1h30, 2h de set chacune. Voilà.
Jusqu'à bon, faire, ça va envoyer un petit peu. Quoi.
Et on a également une veggie.
Oui, de Rennes, effectivement. Donc, une amie d'amis qu'on m'a fortement conseillée. Donc, j'ai hâte de découvrir. Ça va être, elle s'appelle Justine. J'ai oublié son nom de famille, mais voilà, Justine.
Elle projette des formes géométriques, c'est ça, sur l'écran?
Ouais, ouais,
ouais. Crée en même temps.
Bah, je crois que j'ai mis son. C'est un Instagram qu'elle nous a envoyé comme lien, que tu as communiqué sur notre page.
Je ne sais plus.
Je ne sais plus le retrouver sur Facebook, peut-être.
Ouais.
Et alors, est-ce que suite à cette soirée, il y a d'autres événements qui sont à venir pour votre association ou vous ne projetez pas encore au-delà pour l'instant?
On ne fait plus trop de projets. C'est vrai qu'on a beaucoup levé le pied ces dernières années. On a fait beaucoup. Hein, on a fait beaucoup. Et puis, bah, comme on a d'autres activités, des enfants, voilà, on a un peu levé le pied. Donc, on verra. Si l'occasion se représente, ce sera évidemment une joie. Mais on ne fait pas trop de projets.
Comme je disais, il y a beaucoup d'assos aujourd'hui. Donc, il faut essayer de travailler un peu main dans la main. Et puis, je trouve ça très bien que les jeunes aient pris repris le game.
Ouais, il y a plein de trucs super qui se passent là. Franchement, c'est dynamique, c'est super.
Mm. Bah, merci beaucoup les filles d'être venues
merci
nous parler
à toi,
de,
merci à toi.
De l'association et de l'anniversaire de l'asso. Donc je le rappelle, ça aura lieu ce vendredi au Cabaret Vauban de minuit à 5h. Alors les places, vous me dites si je me trompe, mais je crois que c'est entre 10 et 15 euros sur place.
C'est ça.
Et voilà, on espère vous voir nombreux et nombreuses. C'est la fin de notre émission. Merci à nos invités et à Vincent qui était à la technique ce soir. On se retrouve demain à la même heure pour votre quotidienne et je vous souhaite une belle soirée sur les ondes de Radio U.